J'ai été pris moi-même dans l'attentat. Il fallait que je trouve refuge dans un restaurant avec des personnes, etc. Enfin bon, bref, j'ai pu m'en sortir. Et donc, j'ai reçu un appel du maire de Nice, voilà, afin de rejoindre avec d'autres prêtres, quelques autres prêtres et représentants religieux, et puis différents psychologues et personnes en soutien pour une cellule psychologique qui s'est organisée très, très vite. Vraiment, ça a été très vite, très rapide et plutôt bien organisé, je dois dire.
Vous avez été surpris de cet appel ?
C'est-à-dire, en fait, bon, je connais d'abord le maire de Nice, M. Philippe Pradal, hein, donc il y a une amitié, et il fréquente aussi la paroisse. Vous voyez, l'attentat a eu lieu exactement sur le territoire de la paroisse de l'église Saint-Pierre d'Arène. Saint-Pierre d'Arène, qui est une église à côté du Negresco, et qui a deux autres églises, en fait, mais je veux dire, elle est surtout connue comme étant l'église Saint-Pierre d'Arène, et son territoire, vraiment correspond là où a lieu l'attentat. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui est lié à la paroisse, et le maire de Nice est aussi lié à cette paroisse. Donc il a aussitôt pensé à nous, il a pensé à moi aussi, voilà.
Comment se passe l'écoute de victimes après une telle tragédie ?
Alors d'abord on apprend, vous savez, moi je n'ai jamais participé à des cellules psychologiques, donc j'ai appris, je dirais, comme ça, avec les gens qui viennent. Hein. Là, vous savez, il y a plusieurs cas de figure, si je puis dire, il y a plusieurs problèmes qu'ont les gens qui viennent. Il faut d'abord les écouter pour savoir ce dont ils ont vraiment besoin, qu'ils puissent s'exprimer déjà, dire un peu ce qu'ils ont vécu et essayer de comprendre dans ce qu'ils disent, voilà, où on peut déjà les orienter, parce qu'on ne peut pas répondre à tout. Et si on les oriente vers un numéro d'hôpital, est-ce qu'on les oriente vers plutôt un psychologue, est-ce qu'on les oriente plutôt sur quelqu'un qui va les aider à retrouver leur famille ou sur un transport, par exemple, pour simplement rejoindre leur domicile. Donc, il y a plusieurs cas de figure, et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est les gens traumatisés par ce qu'ils ont vu. Il y a beaucoup de traumatisés, aussi bien adultes qu'enfants d'ailleurs, de ce qu'ils ont vu. Vous savez, ce sont des drames. Et puis, il y a chaque fois quelqu'un qui a une histoire particulière à raconter de ce qu'il a vécu. Et c'est vrai que c'est beaucoup de choses durant la nuit jusqu'au matin.
Comment être présent à toutes ces histoires particulières dans un moment aussi intense ?
On se demande comment on fait d'ailleurs. Il faut à la fois un peu de distance, il faut à la fois garder la tête froide autant que l'on peut, c'est-à-dire un peu de distance avec les gens, et en même temps avoir vraiment ce cœur brûlant, quoi. C'est-à-dire le cœur doit rester chaud au sens où on doit toujours avoir cette attitude prête à exprimer son affection, avoir cet amour des gens qui viennent, voilà. Mais quand je vous dis chaque cas est particulier, vous voyez, vous avez le cas par exemple d'une fille qui s'est réfugiée sous une voiture alors que ça mitraillait au-dessus d'elle, et qui était tellement terrorisée qu'alors qu'il n'y avait plus rien, il a fallu que les policiers aillent la dégager de sous la voiture, elle ne voulait plus sortir, vous voyez, donc ça c'est une manière de vivre les choses. Vous avez ce jeune garçon qui a assisté qui a vu plusieurs personnes éjectées dans les airs, qui a vu des cadavres, donc ça c'est un autre traumatisme. Vous avez des jeunes aussi, vous avez une mère qui a vu son fils percuté par le camion devant elle, parce qu'elle le tenait par la main, sauf que le camion l'a percuté, lui le fils, mais pas elle, la mère, vous voyez, toutes ces questions et toutes ces situations difficiles qui se posent à chaque personne qui arrive. Puis après, il y a les choses plus simples. Ce sont simplement des personnes qui ont envie d'être réconfortées. Il y a aussi parfois des choses, mais il faut être attentif à tout parce qu'on ne sait jamais. Parfois, une personne peut arriver, on a l'impression qu'elle va bien et puis tout d'un coup, elle s'effondre et elle raconte son histoire. Voilà.
Frère Yves-Marie, quand on est chrétien, oui. quel mot peut-on trouver d'abord quand on est chrétien et ensuite quand on s'adresse à des non-chrétiens qui vivent ce drame ?
Écoutez, moi, j'aime vraiment ce qui m'a aidé dans cette nuit, c'est la parole de Jean-Paul II, vous savez, qui était déjà à sa consécration comme pape, c'est « n'ayez pas peur ». Je veux dire, c'est le message qu'on doit faire passer aussi bien aux gens qui arrivent qu'à tout le monde, à tous ceux qui sont en aide, à toutes ces personnes en détresse, c'est « n'ayez pas peur ». D'abord, n'ayez pas peur des gens, n'ayez pas peur de leur douleur, n'ayez pas peur de les accueillir, enfin voilà, de l'audace, de l'accueil, on est démunis, eux aussi sont démunis, mais ils ne s'attendent pas à ce qu'on soit de super écoutants ou quoi que ce soit, ils demandent une vraie présence d'abord, et puis de sentir qu'il y a un sentiment de fraternité. Et je dois dire que je n'y attendais pas, mais j'ai été extrêmement touché par, je dirais, cette vraie fraternité au-delà de ce qui peut séparer habituellement, qui a uni tout le monde dans l'accueil de ces personnes. Vous voyez, le corps médical, les pompiers, les services de police, les autorités politiques, les autorités religieuses qui étaient présentes, et puis tous ceux qui venaient aider, quelle que soit sa fonction. Vraiment l'idée qu'on travaille tous ensemble et que chacun pose sa petite pierre. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et on demande à celui qui est à côté, écoute, toi, vois avec cette personne. Moi, je ne peux pas y arriver avec beaucoup de délicatesse, parce qu'on sait qu'on ne peut pas, mais qu'on le fait tous ensemble. Je crois que ça a été un moment vraiment très fort, une sorte de fraternité humaine qui a été vécue, je trouve, magnifiquement dans l'horreur, au fond, parce que le mal, la souffrance, la douleur étaient partout présents.
Il est un peu tôt encore, évidemment, pour savoir qui est vraiment derrière cet attentat.
Oui,
vous savez comment fonctionnent les médias, les réseaux sociaux.
Oui.
Mais quel regard porte le Dominicain sur ce nouvel attentat, cette nouvelle attaque sur le sol français?
Vous savez, j'en discutais justement avec le prêtre ami. On parlait, quelques prêtres d'ailleurs, nous étions en train de discuter en attendant que les premières personnes en souffrance arrivent. Ce qui nous étonnait, c'est au fond, on se disait, mais finalement, les choses ne changent pas, vous voyez, on a l'air de vivre normalement, tout est calme, vous voyez, c'était... Et alors, ce qui m'a, moi, fait réfléchir, c'est au fond, on peut se laisser avoir par, vous voyez, cette répétition, ce calme après la tempête, et au fond, de mettre entre parenthèses une réflexion nécessaire, vous savez. Je crois que l'apôtre lui-même, Paul, je crois, je ne sais plus où, nous invite vraiment à juger, quoi, je veux dire, à être engagé dans notre vie chrétienne et à juger, c'est-à-dire à réfléchir, à interroger les choses, et du point de vue de notre foi, quoi, réfléchir à tout ça. Et vous savez, aujourd'hui, dans l'Évangile, il y avait cette phrase magnifique, l'Évangile du jour, du temps ordinaire, c'est « la miséricorde vaut mieux que tous les sacrifices ». Eh bien, on se rend compte que l'exercice de la miséricorde, dans ces moments-là, c'est vrai que ça paraît presque impossible, et c'est au-delà des sacrifices les plus incroyables qu'on puisse faire, c'est vraiment la miséricorde. Et ça, on l'expérimente vraiment, alors sous toutes ses formes. La miséricorde de l'accueil, la miséricorde du pardon, jeter son cœur, vous voyez, dans la misère de l'autre, c'est vraiment, au fond, l'Évangile de ce jour avait une résonance dans ce que nous avions vécu.